Bonjour, bienvenue dans la web radio du Collège Echamp. Aujourd'hui, nous allons accueillir deux intervenantes pour parler de la résistance et des étrangers dans la résistance.
Bonjour, je suis Laurence Vézirian et je suis médiatrice culturelle au Centre du patrimoine arménien à Valence.
Bonjour, je suis Amélie Nuc, je suis maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l'Université Grenoble-Alpes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Que je suis donc enseignante-chercheuse en histoire dans une université et je travaille sur l'histoire de l'Espagne.
Bonjour, qu'est-ce que vous pensez de la résistance violente ?
Alors, je peux vous répondre, moi, en tant que personne et moi, en tant qu'historienne qui a un peu étudié des choses qui peuvent être en rapport avec la violence. Moi, en tant que personne, je pense des choses, mais c'est peut-être pas ça qui vous intéresse ici aujourd'hui. En tout cas, j'ai parlé tout à l'heure à l'ensemble, enfin à quatre classes de troisième, de l'action des Espagnols dans la résistance. Donc, si j'essaie de leur poser la question à eux, peut-être, qu'est-ce que eux y pensaient de la résistance violente. Je dirais plusieurs choses. La première, c'est qu'en général, ils ont fait la guerre. Donc, ils ont appris à leurs dépens que la guerre est violente et que pour survivre et pour lutter contre le fascisme, la violence était obligatoire. Et en plus, les franquistes, de toute façon, exerçaient la violence sur eux. Donc, j'aurais tendance à dire qu'ils considèrent que c'est un mal nécessaire, c'est-à-dire c'est l'un des moyens qui est à leur disposition pour faire triompher leurs idées et lutter contre le fascisme. Après, je ne les connais pas personnellement, mais des quelques trajectoires que j'ai pu lire, ce n'est pas forcément des hommes et des femmes qui étaient violents avant. C'était des instituteurs, des maires qui avaient des convictions qui, pour certaines, étaient des convictions pacifistes. Mais je pense que cette question de savoir si la résistance violente est ou pas un bon moyen d'action, ça dépend beaucoup du contexte dans lequel on se trouve. Et les Espagnols dont on a parlé ce matin, ils ont connu une guerre civile, ils sont plongés dans une guerre mondiale. Et je pense qu'eux considèrent pour la plupart que la violence est un passage obligé.
Donc pour répondre à la question sur la ce que je pense sur la résistance violente, je vais donner juste un exemple que j'ai vécu et qui m'a vraiment fait réfléchir à ce moment-là. C'est au moment de la sortie du film de Robert Guédiguian sur qui s'appelle L'armée du crime et qui raconte les dernières semaines du groupe Manouchian. L'histoire que je vous ai racontée, l'avant-première de ce film, la sortie de ce film a eu lieu au moment des attentats qu'a connu la France à ce moment-là. Et quand j'ai vu le film, j'ai dit « Ah, la résistance, ils sont forts, ils sont valeureux, ils servent à quelque chose, ils défendent une bonne cause, le nazisme, l'extrême droite. » Mais en même temps, on connaissait sur notre territoire des attentats commis par des gens qui avaient aussi des raisons, même si on a du mal à les comprendre. Mais voilà, ça m'a vraiment fait réfléchir à, effectivement, oui, est-ce que la violence pour défendre une idée est une solution ? Bonne, pas bonne ? Moi, je n'ai pas la réponse, en fait, parce que je ne suis pas historienne, mais voilà, à réfléchir et puis surtout à manier avec précaution dans la société d'aujourd'hui.
Est-ce que tous les résistants ont le même parti politique et la même religion ?
Est-ce que les résistants espagnols ont le même parti politique et la même religion ? Alors, le même parti politique, c'est absolument sûr que non. Parce que les résistants espagnols sont au moins autant divisés que les républicains espagnols pendant la guerre civile. Et ils étaient très divisés. Ça allait, disons, du centre gauche, qui pourrait être représenté par Manuel Azaña, qui était un homme politique de premier plan, qui fuit d'ailleurs en France et qui meurt à Montauban, jusqu'à des anarchistes. Et alors les anarchistes, je ne sais pas si vous les connaissez, mais ils considèrent qu'il ne faut pas d'État, qu'il faut abolir la propriété. Et les anarchistes ne sont pas du tout d'accord avec les communistes, qui ne sont pas du tout d'accord avec les socialistes. Et à l'intérieur même des communistes, ils sont pas du tout d'accord entre eux. Il y a ceux qui sont d'accord avec l'URSS et le Parti communiste espagnol et ceux qui sont hostiles à la ligne de Staline et de l'URSS. Eux, on les appelle le PUM, un drôle de nom, le Parti ouvrier d'unification marxiste. Et pour vous donner une idée de à quel point ils étaient divisés, pendant la guerre civile, l'URSS a tué des militants du PUM. C'est-à-dire que à l'intérieur même du camp républicain, il y a eu encore une guerre civile en quelque sorte, à l'intérieur des communistes, ceux qui étaient alignés sur Moscou et ceux qui y étaient hostiles. Et j'aurais tendance à dire que ces divisions-là, on les retrouve après dans la résistance chez les républicains espagnols. Et dans la BD dont je vous ai parlé tout à l'heure, celle de Paco Roca sur La Nueve, justement, il met ça en scène, ils s'insultent, ils se disputent, ils se crachent dessus et ils doivent tous chaque fois se remettre à l'esprit, on est là pour une même cause qui est lutter contre le fascisme. Donc le même parti politique, ça c'est sûr que non, la religion, de manière générale, les républicains espagnols sont hostiles à la religion catholique. Est-ce qu'ils sont tous athées? Non, certains pouvaient avoir peut-être des convictions religieuses, mais la grande majorité était plutôt hostile aux positions de l'Église catholique qui était assimilée au franquisme. Et en Espagne, la religion principale, c'est vraiment la religion catholique. Vous savez peut-être qu'en 1492, on a découvert l'Amérique, mais on a aussi exclu les Juifs d'Espagne. Donc il restait très peu de Juifs en Espagne et très peu de musulmans. Dans l'Espagne dont on parle à cette époque-là, ce qui n'est plus le cas de l'Espagne aujourd'hui.
On peut rentrer en résistance pour des raisons politiques, pour des raisons religieuses un peu moins pour la Seconde Guerre mondiale, mais on peut aussi, alors moi je cite juste un exemple de personnes qui dans un premier temps sont rentrées en résistance pour fuir le STO, le service du travail obligatoire. Toute cette jeunesse qui voulait pas aller en Allemagne, travailler pour l'Allemagne, allait se cacher. Donc pour ce qui est de Valence, ils allaient dans le Vercors, hein, à Vassieux, dans les grottes, retrouver des résistants qui les cachaient pour fuir le STO. Mais dans un premier temps, c'était pas pour des convictions politiques par rapport à des partis politiques où ils étaient. C'était parce qu'ils étaient jeunes et qu'ils voulaient pas aller travailler en Allemagne et qu'ils allaient se cacher. Et petit à petit, on les a formés, notamment dans le Vercors, on les a formés à combattre et pour la plupart, ils ont aussi laissé leur vie.
Jusqu'où va le sacrifice et l'engagement personnel pour la résistance ?
Jusqu'à très loin, jusqu'à mourir pour ses idées. Alors, tous les résistants espagnols qui se sont engagés dans la résistance ne sont pas morts. Une partie l'ont été, une partie a été torturée, emprisonnée. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit, c'est-à-dire que résister, c'est risquer sa vie. Alors, c'est lutter pour sa survie aussi, parce que comme je le disais ce matin, les républicains espagnols, ils n'ont pas non plus beaucoup d'options. Rentrer en Espagne, ça veut dire retrouver l'Espagne franquiste, potentiellement les geôles franquistes. Mais malgré tout, ça veut dire peut-être mourir. Et peut-être que ce qu'il faut avoir à l'esprit aussi, c'est l'une des raisons pour lesquelles aussi peut-être les femmes se sont moins engagées que les hommes, ou en tout cas pas selon les mêmes modalités. Peut-être que là, je suis en train de commencer à répondre à une autre question, donc je m'arrête. C'est aussi que risquer sa vie, c'est peut-être plus difficile lorsque vous avez une famille, lorsque vous avez une femme, lorsque vous avez un mari, lorsque vous avez des enfants qui dépendent de vous. Parce que si vous arrive quelque chose, qu'est-ce qu'ils vont devenir et comment ils vont vivre après? Donc, courir le risque de la mort, de l'arrestation, la peur de parler sous la torture, c'est une question qui peut avoir encore plus d'écho si vous avez des gens autour de vous. Les historiens et les historiennes qui ont travaillé sur les parcours de résistants ont regardé ça aussi. D'où ils venaient, quels étaient leurs milieux sociaux, quelles étaient leurs convictions politiques, leur âge. Et on a une surreprésentation, en tout cas chez les Espagnols et les Espagnols-leux aussi chez les femmes, des jeunes. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils ont plus d'idéaux? Je ne sais pas. Mais en tout cas, souvent, ils ont moins de contraintes familiales, moins d'attaches que ceux qui sont plus avancés dans la vie et qui ont déjà une famille, par exemple.
Je rajouterai un exemple, évidemment. On peut aller jusqu'à la mort, qui est l'extrême sacrifice pour des idées. Mais je vais citer un exemple du couple Missag et Méliné Manouchian. On a appris que Méliné, alors qu'ils étaient déjà entrés en résistance, étaient tombés enceintes. C'était un jeune couple, une jeune femme qui tombe enceinte alors que son mari, à ce moment-là, est en prison. Elle ne le dit pas à Missag. Elle se fait avorter avec les techniques de l'époque qui étaient très dangereuses pour les femmes. Et Missag l'apprend après, juste après, comme quoi il allait être papa et qu'elle a pris la décision elle seule de ne pas avoir d'enfant. Donc voilà, il lui en a voulu. Mais en tout cas, Méliné, elle a pris cette décision de femme parce qu'elle considérait à ce moment-là que c'était pas possible en fait de faire les deux, de fonder une famille et de se battre en résistance. Et pour elle, à ce moment-là, le plus important, c'était la résistance.
Est-ce que vous considérez que les attaques du groupe Manouchian étaient des attaques terroristes ?
Terroriste, la définition exacte, je ne sais pas, mais ça doit être voilà, des violences avec des armes, pas officielles. C'est peut-être un peu ça, non, le terrorisme. La résistance, Manouchian... Bah, pendant la guerre et au moment de la victoire, je pense qu'il a été confirmé que c'était l'armée de l'ombre. Il y avait l'armée française et il y avait l'armée de l'ombre, les résistants. Donc oui, effectivement, ils ont fait des attentats, ils ont fait des assassinats, mais comme on le disait tout à l'heure, c'était le moindre mal à ce moment-là, dans ce contexte de conflit. Je les apparenterais plus à des, voilà, à des soldats cachés qui font leur boulot dans ce contexte-là.
Alors moi, j'ai deux questions. Quelles sont les actions des résistants espagnols et est-ce qu'il y en a certaines qui sont plus importantes que d'autres ?
Plus importantes, c'est-à-dire ? Une action plus importante, c'est quoi ? C'est que qui serait plus nombreuse ou qui toucherait plus de gens ?
Qu'ils ont plus de conséquences.
Qui marchent, quoi. C'est ça. Alors, de ce qui me semble, les actions des résistants espagnols ne sont pas fondamentalement différentes des actions qui sont menées par les autres résistants. Néanmoins, peut-être qu'il faut souligner qu'une partie des républicains espagnols qui se sont engagés dans la lutte contre le fascisme dans la Seconde Guerre mondiale l'ont aussi fait par le biais de l'engagement dans l'armée régulière. C'est le cas de la Nueve dont on parlait ce matin, donc qui s'engage dans la 2e division blindée du général Leclerc. Ce sont des soldats et qui sont dans une armée régulière. Ça, c'est un premier moyen d'action. Ensuite, il y a un autre type de guerre. On en a parlé avec l'une de vos camarades qui est venue me voir à la fin de la conférence parce que j'avais pas assez bien expliqué ce que c'était qu'une guérilla. Guérilla en espagnol, c'est une petite guerre. C'est une guerre qui est menée sans les moyens de la guerre conventionnelle. C'est-à-dire que quand vous n'avez pas d'armée, quand vous n'avez pas d'artillerie, d'armes, de tanks, et que vous voulez quand même vous battre, vous pouvez vous battre avec vos moyens à vous. C'est souvent présenté comme l'arme des faibles, qui est de vous engager avec ce que vous avez et de prendre le maquis, par exemple, d'aller vous cacher et d'aller combattre l'occupant. Et là, vous avez des techniques comme le sabotage, dont on a parlé tout à l'heure. Et il y a un versant important aussi des actions qui sont menées par les résistants espagnols comme les autres résistants, c'est tout ce qui est lié à la propagande. Parce qu'il faut arriver à vous essayer de vous remettre dans le contexte de l'époque. Les débuts de la résistance, c'est des choses qui vous paraîtront, vous, très petites. Donc peut-être que, pour reprendre ce que vous disiez, des choses pas importantes. C'est écrire un graffiti, disons « la lutte doit continuer ». C'est écrire des tracts à la main, vraiment, voyez ça au début comme des choses très très artisanales, pas du tout organisées, pour en fait diffuser l'idée dans la population française qu'il y a d'autres solutions que l'armistice et que le respect de l'armistice. Parce que les gens, ils sont abasourdis, des fois ils ont dû quitter leur maison parce que c'était l'exode, des fois le mari a été fait prisonnier. Donc du coup, les gens un peu désemparés se disent, l'armistice, ça doit être la moins mauvaise des solutions. Et puis Pétain, le maréchal Pétain, celui qui a signé l'armistice, c'est quelqu'un de très respecté. Il est très très vieux, il est né en 1858, je ne sais pas si vous vous rendez compte, il a connu Napoléon III. Et il a plus de 80 ans en 1940, mais c'est le héros de la Première Guerre mondiale, c'est le héros de Verdun. Donc ce vieil homme respecté, on a tendance à penser qu'il a pris quand même la bonne solution. Et donc du coup, écrire des tracts, écrire sur les murs, donner votre avis, faire se rendre compte à la population qu'un autre chemin est possible, ça aussi c'est une action de résistance. Alors peut-être pas une grande action de résistance, peut-être pas une action militaire, mais héroïque je pense que si. Parce que dites-vous que c'est toujours dangereux d'exprimer un avis qui est dissonant par rapport à ce que à la norme de cette époque-là, à la fois vis-à-vis du régime de Vichy et des autorités allemandes. Donc, tout ça pour dire que même une petite action peut avoir de l'importance parce qu'elle a un effet sur la population, sur l'opinion publique.
Sur quelle zone géographique le groupe Manouchian a-t-il été présent ?
Le groupe Manouchian sévit sur la région parisienne, Paris et le Tour.
Mais pas en province. Que pourquoi cette pourquoi que la région parisienne et pas
alors,
le reste?
Le groupe Manouchian, c'est-à-dire les FTP MOI de Paris, c'est voilà, c'est, on appelle ça le groupe Manouchian, c'était Paris, mais effectivement il y avait d'autres groupes FTP MOI dans toute la France, à Grenoble, à Bordeaux, à Toulouse, à Lyon. Oui, effectivement, c'est une bonne question. C'est que tout était organisé en fait au niveau de la résistance. Il y avait plusieurs groupes différents et chaque groupe était organisé au niveau géographique, comme les FTP MOI.
Sur quelles zones géographiques les résistants espagnols, du coup, étaient-ils présents et pourquoi ça?
Alors la question est plus difficile qu'elle en a l'air, parce qu'en fait, ça dépend de quels résistants on parle. Est-ce que ce sont ceux qui sont engagés dans des groupes armés? Est-ce que ce sont les résistants qui se sont engagés, par exemple, dans la deuxième DB du général Leclerc? Donc d'abord, ils sont en Afrique du Nord, et puis ensuite, ils vont en Angleterre se former, apprendre à utiliser le matériel américain, ils traversent la Manche, ils combattent en France pour libérer Paris. Est-ce qu'on est en train de parler des résistants espagnols qui étaient dans les corps des travailleurs étrangers? Est-ce qu'on est en train de parler de ceux qui sont mobilisés sur le mur de l'Atlantique et qui sabotent une partie des ouvrages, vous voyez, qui sont menés. Donc, en fonction de chacun de ces groupes de résistants, on aura du coup une localisation différente. Néanmoins, pour la participation à la guérilla, ils sont souvent dans le quart sud-ouest, de la France, parce que c'est principalement par là qu'ils sont arrivés, parce qu'il y a les Pyrénées et de l'autre côté, il y a l'Espagne. Ils sont arrivés dans les camps donc du sud-ouest du Roussillon. Et ensuite, ils se sont installés souvent dans le sud-ouest de la France. C'est le cas, par exemple, de Neus Català, dont je vous parlais tout à l'heure, donc cette résistante qui était née en Catalogne en 1915. Et son mari, par exemple, enfin son deuxième mari, lui, il y a une photographie, je ne me rappelle plus si en fait je l'ai mise dans le PowerPoint ou pas, il est en train de combattre dans un maquis à La Roquebrune. Je vous en parle parce que La Roquebrune, c'est dans le Cantal et moi je viens du Cantal. Donc j'ai été surprise en fait de trouver ce nom-là. Pourquoi il était là-bas? Parce qu'en fait il a été enrôlé pour travailler sur un barrage là-bas et refusant de continuer à travailler, si vous voulez, pour l'occupant, eh ben, il s'est engagé dans le maquis qui était situé aussi juste à côté. Donc il y a en effet une forme d'organisation progressive des mouvements de résistance, mais après c'est aussi lié au parcours et au hasard de la vie, des aléas, de ces parcours chaotiques pendant la guerre.
Et c'est plus une question pratique, mais comment les résistants se reconnaissent entre eux?
Déjà, je ne sais pas s'ils se reconnaissent forcément tous entre eux, mais en tout cas, c'est une question importante parce qu'il faut arriver à se reconnaître entre eux sans se faire reconnaître par la police et que c'est ceux qui sont susceptibles de se faire arrêter. Et de manière générale, la question du secret est cruciale parce que le secret, c'est la survie. En tout cas, c'est ce qui vous permet de continuer à agir et surtout de continuer à vivre. Donc, la question de l'identité, et aussi très très importante parce que quand vous êtes résistant républicain espagnol en France en 1939, on ne vous voit pas du tout d'un bon oeil parce que vous êtes en rouge, rojo. C'est comme ça que Franco les appelle en Espagne et quand même qu'on continue à vous voir un peu en Espagne. Vous êtes étranger, vous êtes rouge, vous avez quand même beaucoup de chances de ne pas plaire beaucoup à ceux qui vont vous arrêter. Donc il y a qui dit résistance dit aussi toute la logistique qui va avec pour justement arriver à cacher votre identité et à faire en sorte d'arriver à structurer un réseau. Moi, ce que j'ai en tête, c'est, je ne sais pas si vous connaissez cette bande dessinée qui est sortie il n'y a pas très très longtemps, qui s'appelle Madeleine Résistante. Elle est en 4 tomes et c'est l'histoire de Madeleine Riffaut, donc qui était résistante. Alors, elle n'était pas espagnole, mais je trouve que la BD qui est en 4 volumes, hein, qui montre bien comment les femmes s'engageaient aussi dans la résistance, montre aussi toutes les techniques qu'il faut mettre en œuvre pour se reconnaître entre soi et pour se faire cacher des autorités. L'une des techniques, c'était que vous deviez jamais connaître la totalité des gens qui étaient au-dessus de vous. Vous deviez connaître toujours peu de gens. Pourquoi? Parce que si vous êtes arrêté et torturé, comme ça, vous ne pourrez pas donner plus de noms que ceux que vous savez déjà. Parce que c'est l'une des craintes hein, qu'avaient aussi les résistants, de ne pas être capable de ne pas parler sous la torture. Donc moins vous en saviez, mieux c'était. Mais malgré tout, il fallait se reconnaître entre vous, ou en tout cas être capable d'arriver à identifier les alliés. Donc voilà, des codes secrets, des adresses clandestines, des points de rendez-vous. Toute cette question, vous avez raison, de la transmission de l'information, c'est crucial pendant la période de la résistance. Et eux, ils n'avaient pas tous les moyens de communication dont disposaient les autorités. Et surtout pas le téléphone portable.
Comment se sont-ils engagés dans la résistance ?
Il y a probablement autant de situations individuelles que de cas. Néanmoins, dans le cas des Espagnols, qui est celui que je connais le moins mal, il y a quand même des caractéristiques. La principale, et vraiment c'est ce qui donne la spécificité à ce groupe-là d'étrangers, c'est que pour eux, ils s'engagent parce qu'ils continuent la guerre qu'ils viennent de perdre. Donc ils continuent la guerre civile, c'est une manière de continuer la guerre par d'autres moyens, parce que l'ennemi c'est toujours le même, le fascisme. Donc ça c'est sûr que c'est l'un des vraiment un vecteur puissant d'engagement, vouloir continuer à faire prévaloir ses idéaux, survivre encore une fois, et éviter le destin tragique qui pourrait être celui qui les attend, c'est-à-dire de retourner en Espagne. Après ce que vous dites, à mon avis, il faut aussi vous dire que souvent, c'est difficile à savoir. Imaginez-vous, j'en sais rien, moi, une républicaine qui a été infirmière sur le front pendant la guerre civile et qui s'engage dans la résistance. Comment savoir ce qu'elle pensait ? On peut essayer de reconstituer si elle a fait des lettres. Mais enfin, vous doutez bien qu'en 1942, raconter sa vie et dire à quoi vous croyez, à quoi vous vous engagez dans la résistance, c'est dangereux, vous n'avez pas intérêt à le faire. Des journaux intimes, c'est pareil, puis c'est difficile de les conserver. Donc comment on va savoir ce qu'elle pensait ? Peut-être parce qu'elle a écrit des tracts, mais des tracts c'est anonyme, donc on ne saurait pas ce qu'elle elle a pensé. Dans le cas de Neus Catala, ses enfants ont témoigné après. Ou elle a recueilli les témoignages de gens avec lesquels elle s'est engagée et avec lesquels elle a été déportée. Mais ça, c'est une vraie question qui se pose aux historiennes. C'est comment, avec quelles sources, avec quelles archives, on arrive à reconstituer le passé et notamment des choses aussi intimes que qu'est-ce qui vous pousse un jour à vous engager. Posez-vous la question. Vous, qu'est-ce que vous laissez comme trace de ce que vous pensez et de vos émotions aux historiens et aux historiennes qui vont arriver après ? Comment dans 50 ans, on pourra savoir ce que toi tu penses ou pourquoi vous, vous décidez d'aller dans tel lycée l'année prochaine ou vous d'aller en Normandie pour faire une spécialité échec. Vous voyez ? Soit vous laissez des traces et encore il faut qu'elles soient gardées par les personnes, si vous avez des enfants, peut-être que vous n'en aurez pas. Donc tout ce que je vous dis là, ça reste des suppositions à partir de ce que nous, historiens et historiennes, on a comme matériaux pour reconstituer l'histoire.
Quels étaient les moyens de communication utilisés par la résistance au niveau des étrangers ?
Du coup, il n'y a que moi qui parle. Est-ce que les Espagnols avaient des moyens de communication particuliers par rapport aux autres ? Là, j'avoue, je ne sais pas. Je sais qu'ils avaient des journaux particuliers, en tout cas des moyens de propagande. Je vous parlais ce matin de Reconquista Española, d'un journal créé par les Espagnols et à destination des Espagnols. Comment ils communiquaient ? Ils communiquaient par radio, ils communiquaient par des réseaux de communication qui étaient structurés les uns par rapport aux autres. Là, je ne sais pas, je m'adresse à des gens qui connaissent plus ça que moi, j'en sais rien. Message codé, mais qui transmettait par quel biais ? Papier ?
Vous passez des messages, des tracts à quelqu'un. On communiquait aussi comme ça, hein. Parce qu'il y avait la communication à l'intérieur du réseau de résistance, de l'ensemble des résistants. Il y avait la communication, c'était évoqué, vers l'extérieur, c'est-à-dire la propagande, les journaux.
Encore, moi, je vous dis que ce que je sais, c'est-à-dire peu de choses. Ils faisaient un peu comme ils pouvaient. Et de ce que j'ai lu, au départ, c'est quand même assez artisanal. Ensuite, avec des imprimeries clandestines, on se servait aussi des gens qui pouvaient travailler dans des endroits dans lesquels, justement, il existait ce type d'appareil, quoi, qui permettait de machines, de fabriquer des faux papiers. Et ensuite, ce qui pouvait être très, très utile, c'est d'avoir des contacts dans les administrations. dans les administrations dans lesquelles justement on délivrait ces types de papiers. C'est l'une des manières selon lesquelles on a pu protéger des résistants ou des juifs ou des étrangers. Mais les personnes dans ces cas-là prenaient beaucoup de risques parce qu'évidemment, si elles se faisaient prendre, elles sont censées être des fonctionnaires de l'État français. Et fonctionnaires de l'État français, c'est Vichy désormais. Donc, c'était extrêmement risqué, mais du coup très précieux pour les réseaux de résistance d'avoir des tops, quoi. Enfin, vous voyez, d'avoir des alliés dans l'administration.
Comment ils choisissaient qui sabotait ?
Moi, j'ai juste un exemple. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'assassinat par le groupe Manouchian de Julius Ritter, ce nazi à Paris. En fait, ce que raconte Manouchian après, c'est qu'il ne savait pas. Ils étaient chargés d'organiser l'assassinat au niveau logistique, les armes, les déplacements, les voitures, à tel endroit, de préparer toute l'opération et ensuite d'agir. Par contre, jusqu'au lendemain où l'info a été parue dans le journal, ils ne savaient pas qui ils allaient assassiner. Donc, il fallait qu'ils préparent, ils avaient un maximum d'informations, préparer l'opération, tirer sur le monsieur visé. Mais à ce moment-là, où ils ne savaient pas qui était ce monsieur, si c'était Julius Ritter et qui était Julius Ritter. Ils l'ont appris le lendemain dans la presse. Et en fait, c'est le Parti communiste qui a fourni les informations avant pour travailler sur le dossier et puis agir. Mais Missag et son groupe n'ont pas choisi d'assassiner Julius Ritter. On leur a donné l'ordre et ils ne savaient même pas qui ils assassinaient ce jour-là. Donc c'est un exemple qui reflète peut-être pas la totalité des actes, mais en tout cas là, voilà, Julius Ritter, le groupe Manouchian, ça s'est passé comme ça.
Est-ce que l'engagement est le même suivant le genre et l'âge ? Et est-ce que le genre et l'âge font avoir des actions différentes dans la résistance ?
L'âge, on en a déjà un peu parlé tout à l'heure, mais le genre, c'est-à-dire est-ce que les femmes et les hommes s'engagent pareil dans la résistance, c'est une bonne clé de lecture. Le point de départ, ça peut être qu'on a longtemps pensé, en tout cas les femmes ont été moins décorées pour faits de résistance que les hommes. Donc, qu'est-ce qu'on en conclut ? Est-ce que les femmes ont été moins résistantes ? Est-ce que elles se sont engagées de la même manière. Et finalement, être résistant, c'est quoi ? Est-ce que c'est combattre les armes à la main ? Parce qu'on est dans une société, des sociétés dans lesquelles la répartition des rôles de genre, c'est-à-dire la répartition de ce qui est attendu des hommes et des femmes, est très nette. Et du coup, c'est la raison pour laquelle, souvent, on leur attribue des tâches dans la résistance qui sont des tâches liées à la transmission d'informations, plutôt que de combattre les armes à la main. Ou alors, elle pouvait être, par exemple, infirmière. Ou alors, avoir des tâches qui consistaient à s'occuper des prisonniers, des résistants qui étaient cachés. Mais en effet, c'était aussi très, très, très risqué, parce que se promener à vélo, passer la ligne de démarcation, faire passer des messages, ou alors avoir des armes dans son cabas, comme on l'a dit tout à l'heure, c'était aussi extrêmement risqué. Et le cas de Madeleine Riffaut, dont je vous parlais tout à l'heure, montre aussi que des femmes ont combattu les armes à la main. Dans la BD, l'une des séquences la donne à voir qui descend un officier allemand en plein jour, en plein Paris, sur un pont au-dessus de la Seine. Et les autres, les hommes de son groupe, sont sidérés de ce qu'elle a fait. Et surtout, ce qui est important, c'est que souvent, ce rôle-là, il a été méconnu. Il a été laissé dans l'ombre, un peu comme le rôle des étrangers dans la résistance. Souvent, on en a peu parlé, parce que l'histoire a longtemps été écrite par des hommes, parce que les grandes figures de la résistance, a priori, sont plutôt des figures masculines, même s'il y a quelques figures féminines. Vous connaissez peut-être Lucie Aubrac, la femme de Raymond. Et donc, du coup, elles sont moins restées peut-être dans la mémoire et même dans les livres d'histoire. Elles ont mis un peu plus de temps à se faire une place. Et on en revient, encore une fois, à cette histoire aussi de traces. Qu'est-ce que c'est les traces qu'on utilise pour écrire l'histoire ? Souvent, les femmes ont plus tendance à dire « mais j'ai rien fait ». C'était normal, tout le monde l'aurait fait. Et, si vous et parfois, elles n'ont pas raconté, et c'est vrai aussi des fois pour les résistants en général, ce qui leur est arrivé à leurs descendants, parce que ça a pu être une expérience traumatisante.
Quelles opinions les Français avaient des étrangers et inversement ?
La France dont on parle, c'est celle des années 1930. Au début du XXe siècle, la France est avec les États-Unis le pays qui a accueilli le plus d'étrangers. En proportion, c'est le pays dans lequel vous avez le plus d'étrangers par rapport à la population totale. Vous avez peut-être en tête les États-Unis comme un pays d'immigration très forte, et encore jusqu'à un certain moment. Vous savez, les migrants qui arrivent, Statut de la Liberté, Ellis Island, tout ça. Il y a aussi énormément d'immigrés en France, de plusieurs vagues d'immigration successives. Néanmoins, ce n'est pas pour ça qu'on les a accueillis les bras ouverts. Hein. Et il y a eu plusieurs phases très aiguës de xénophobie, c'est-à-dire d'hostilité vis-à-vis des étrangers en France. Et celle qu'on connaît bien, par exemple, c'est celle vis-à-vis des Italiens. Notamment à Aigues-Mortes, dans le sud de la France, on a tué des Italiens parce qu'ils étaient étrangers. Et à la fois, la France est un pays qui a accueilli beaucoup d'étrangers. C'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de Juifs qui arrivent d'Europe centrale parce qu'ils fuient, ils fuient le nazisme, mais aussi parce qu'ils sont venus, travailler. Mais néanmoins, cette Troisième République, qu'on pourrait imaginer comme un régime démocratique, hein, elle commence dès avant le régime de Vichy à stigmatiser les étrangers et même à mettre en place des camps dans lesquels on les interne. Donc vous voyez que démocratie égale pas forcément, régime démocratique égale pas forcément accueil toujours positif des étrangers.
D'autant plus que ces années 30, comme on l'a vu dans l'histoire de Missak, c'est aussi une période de crise économique, donc de moins de travail, plus de chômage, plus de pauvreté. Et que généralement, c'est dans ces contextes sociaux que, bah, que se passent les opinions sur les étrangers, qui étaient les bienvenus dans les années 20. Après, à vérifier s'ils ont été bien accueillis dans les années 20. Pour ce qui est des Arméniens, ça n'a pas forcément été le cas, puisque dès le départ, ils ont été considérés comme des étrangers, inassimilables. Qui ne pourront jamais devenir français, apprendre le français, écrire le français, parce que effectivement, dès qu'ils sont arrivés, on ne les connaissait pas et ils n'ont pas eu le temps de, voilà, de faire leurs preuves. Les années faisant, 10 ans après, dans les années 30, les enfants sont allés à l'école, ils ont appris le français, ils travaillent, donc voilà, l'image devient plus positive. Mais en tout cas, ce qu'on en mémoire les personnes qui sont encore vivantes aujourd'hui de cette génération, quand ils étaient petits, qu'ils allaient à l'école, le sale arménien comme le sale italien était assez courant. Donc, ils ont un petit peu grandi avec ce regard sur eux et surtout mettre le doigt sur le fait qu'ils sont étrangers, qu'ils ne sont pas français. Et on va rajouter là-dessus les années 30 et la crise économique, qui est le contexte idéal pour diviser la population. Ce qui est arrivé en France, ce que je racontais tout à l'heure avec la montée de l'extrême droite, qui porte ça en germe dans son idéologie.
Quelle reconnaissance de la France ont-ils eu sur le moment, juste après et des années plus tard ?
Sur l'histoire que je vous ai racontée, le groupe Manouchian et Missak Manouchian, la reconnaissance, elle est arrivée 80 ans plus tard. Pour certains, ça a été un magnifique moment, 2024, l'entrée au Panthéon de Missak et Méliné, symbole de la résistance étrangère en France. Mais certains sont aussi un peu plus critiques en disant qu'il a fallu attendre 80 ans. Donc ça a été fait, Emmanuel Macron l'a décidé, a voulu raconter aussi cette histoire de France. Mais effectivement, 80 ans plus tard, on pourrait se poser la question. Et puis aussi, on pourrait se poser la question, pourquoi en 2024 ? Puisque au même moment, de mes souvenirs, était débattue à l'Assemblée nationale la nouvelle loi d'immigration, où on entendait les députés s'étriper sur le bon étranger, le mauvais étranger. Et puis, pile à ce moment-là, on fait rentrer un étranger, le seul étranger au Panthéon, l'Arménien, au nom de tous les étrangers qui sont morts pour la France. Donc voilà, moi, je n'ai pas forcément la réponse, mais effectivement, relire aussi l'histoire par rapport à cette chronologie, c'est intéressant de voir comment ils sont honorés plus tard, et puis dans quel contexte aussi. Quel est le message passé politique qui est derrière. Je ne sais pas, je ne prendrai pas parti et je ne connais même pas la réponse, mais c'est toujours intéressant aussi de regarder comment un historien travaille, mais aussi comment l'histoire s'écrit, la mémoire s'écrit au moment où elle s'écrit.
Pour ce qui est des Espagnols, dont l'engagement des Espagnols dans la résistance française, juste après la Seconde Guerre mondiale, non, ce n'est pas quelque chose qui est mis en évidence. Parce que comme on le disait ce matin, il y a la construction du mythe résistentialiste, c'est-à-dire l'idée selon laquelle une majorité de Français auraient été résistants. Pourquoi ? Parce qu'on veut construire un nouveau régime et l'idée, c'est plutôt d'insister sur ce qui a été positif plutôt que sur les compromissions. Et c'est vrai que dans ce mythe résistentialiste, les étrangers n'ont pas forcément leur place et les Espagnols non plus. Donc tout ça est arrivé tardivement. Il faut dire que en Espagne, on a aussi mis longtemps à reconnaître ce qui s'est passé pendant la guerre civile, parce qu'il y a eu 40 ans de dictature après. Donc dites-vous que cette écriture de la guerre civile et du franquisme, ça date du début des années 2000. Vous voyez, encore une fois, ça vous paraît peut-être vieux, mais à notre échelle, à nous, moins. Et l'engagement, par exemple, des résistants espagnols dans la 9e, dans la 2e DB, la libération de Paris par eux, c'est quelque chose de tardif. Et encore une fois, moi, on m'en a pas parlé quand j'étais petite. Et pour vous raconter une anecdote qui fera vous rendre compte qu'on n'en a quand même pas beaucoup parlé pendant longtemps, quand j'avais une vingtaine d'années, j'avais un petit ami qui était breton. Et on allait rendre visite à sa grande-tante qui était dans une maison de retraite en Bretagne. Et on m'a dit « Ah, mais tu t'intéresses à l'histoire de l'Espagne ? Viens donc voir Monsieur Hernández, donc un voisin de la maison de retraite. » Eh bien, il avait fait partie de la Nueve. Mais moi, sur le coup, je me disais « C'est bizarre, j'en ai jamais entendu parler. » Donc, il m'a raconté son histoire. J'ai pas fait si gaffe que ça. Et après, quand moi-même j'ai appris de ça, je me suis dit, mais en fait, j'avais un témoin face à moi. Il fallait avoir un magnétophone, je l'avais pas, etc. Et donc ce monsieur, il était dans sa maison de retraite, a raconté une histoire que finalement peu de gens connaissaient. Et je l'ai vu après dans un documentaire qui est passé à la télé justement sur la Nueve. Et dans la BD de Paco Roca dont je vous parlais ce matin, c'est ça aussi que l'auteur donne à voir. Ce vieux monsieur acariâtre, de mauvaise humeur, qui a tenu un garage toute sa vie et dont les gens autour de lui ne savaient même pas qu'il était un héros. Pourquoi ? Parce que lui-même n'en avait pas parlé et parce que c'était une histoire qui était très très peu connue. Donc vous, peut-être qu'avec cette émission, vous donnerez à connaître cette histoire-là. Et ça, c'est super.